10h-11h sur RCL. Et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission dédiée aux épilepsies. Avec un très beau plateau aujourd'hui et beaucoup de monde à mes côtés, on va parler aujourd'hui dans cette émission en direct de fratrie et d'épilepsie. Bienvenue tout le monde, on est ensemble jusqu'à 11h.
10h-11h sur RCL, et puis c'est tout.
Et quoi de mieux pour parler de fratrie et d'épilepsie que d'accueillir à nos côtés Lise, 17 ans. Bonjour Lise.
Bonjour.
Lise qui est la grande sœur de Pauline. Pauline qui a 14 ans, oui. Et qui souffre d'un trouble d'épilepsie.
C'est ça.
Et à tes côtés, on peut se tutoyer ou tu préfères qu'on s'ouvre ? Comme tu veux.
Non, tutoyer.
Alors on se tutoie. Et à tes côtés, Lise, Emeline. Pareil, grande sœur d'un... Grande sœur,
oui, grande sœur, ouais.
De Corentin qui lui aussi souffre d'une épilepsie.
C'est ça.
Et on va parler ensemble de ce que ça représente dans votre vie dans quelques instants. Pour nous accompagner également Leslie.
Bonjour. Leslie.
Vous êtes psychologue Leslie au MAS de Dommartin-les-Toul.
C'est ça.
Le MAS, on peut rappeler ce que c'est peut-être.
Maison d'accueil spécialisée.
Et vous allez nous expliquer un petit peu comment vous voyez cette relation entre les frères et les sœurs lorsque notamment s'invite finalement un trouble d'épilepsie. Et puis pour nous accompagner comme chaque mois dans cette émission, Céline. Bonjour Céline.
Bonjour Thomas.
Céline des équipes relais handicap rare.
Hein, exactement.
C'est pas trompé, ce qu'on appelle ERHR.
Tout à fait.
Si on veut résumer. Et à tes côtés également, Aurore.
Bonjour Thomas.
Bonjour Aurore, ça va bien ?
Oui,
Très bien, merci beaucoup. Les ERHR, on peut rappeler ce que c'est un petit peu rapidement ?
Oui, équipe relais donc handicap rare. On accompagne des personnes en situation de handicap plutôt complexe. On accompagne sur le versant de la recherche de solutions, de ressources, du soutien, de l'écoute. Dans toute la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Et il y a des équipes relais handicap rare dans tous les territoires de France.
Voilà, et donc chaque mois on a le plaisir de se retrouver pour parler d'épilepsie. Alors évidemment c'est pas un plaisir de parler d'épilepsie parce qu'on en souffre, mais en tout cas c'est un plaisir de pouvoir aborder des sujets autour de cette thématique. Comme chaque mois, on va démarrer cette émission par le micro-trottoir que vous avez réalisé. La première question que vous êtes allé poser aux gens dans la rue, c'était...
Alors, c'était selon vous, les frères et sœurs doivent-ils s'occuper de leurs frères et sœurs handicapés épileptiques ?
Bah oui, des frères et des sœurs, enfin, ils doivent s'occuper de leurs frères et sœurs.
Oui, il faut, c'est important.
Oui, bien sûr.
C'est de leur devoir, parce que c'est de leur famille, c'est de leur propre sang. Ils sont obligés de le faire.
Oui.
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 Beaucoup.
Oui, bien sûr. Oui.
Pas beaucoup.
Bien
sûr. Bah, je pense qu'il y a des structures adaptées, mais la famille doit être présente, c'est sûr. Aussi bien pour les frères et sœurs que pour les parents. Mais on n'est pas des professionnels, donc on risque de mal s'y prendre. Donc il vaut mieux que ça soit dans une institut, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, quoi. Mais il faut que les parents soient, et les frères et sœurs soient présents aussi.
Oui.
Pour le côté affectif, quoi. Mais autrement, pour les soins, c'est pas de la mauvaise volonté, mais il faut des gens compétents, quoi.
Aucune réponse, je sais pas.
Alors, on a entendu qu'il y a des structures adaptées, notamment, et des professionnels, mais aussi, évidemment, beaucoup de gens disent oui, c'est la famille, c'est le sang, il faut s'en occuper. Je vais vous demander un petit peu votre avis. Je vais commencer peut-être par les deux frangines, Lise et Emeline, puisque vous êtes concernées par cette thématique. Pour vous, c'est normal de vous occuper de ta sœur, Lise, ou de votre frère, Emeline ?
Bah oui, j'estime que en tant que frère et sœur, enfin, on est né en fait avec justement cette personne à nos côtés. Enfin, pour ma part, il est arrivé quand j'avais 5 ans, mais c'est vrai que une grande sœur s'occupe toujours de son petit frère, et même quand un petit frère arrive, on dit oh bah tiens, occupe-toi, etc. Après, c'est vrai que c'est encore différent de s'occuper d'une personne épileptique qu'un enfant normal, on va dire. Mais au final, comme nous, ça nous est arrivé, on va dire, dès le départ, on ne voit pas la différence. Donc, on ne sait pas ce que c'est, en fait.
C'est on ne peut plus naturel, finalement.
Voilà.
La vie est ainsi faite.
Voilà.
Lise ?
Bah, moi, non. Oui, un peu. Quand ma sœur, elle était épileptique, avant, elle a eu un cancer, donc c'était assez compliqué. Mais sinon, oui, je m'occupe beaucoup d'elle dans la vie.
Et ça te paraît normal ?
Oui.
On entendait, et là je me tourne vers Leslie, on entendait parler des structures adaptées.
Oui.
On l'a dit, il y a la MAS notamment, que vous représentez, maison d'accueil spécialisée. Quel est votre regard justement sur le fait que je reprécise bien la question, qu'on doive s'occuper. C'est pas on peut ou c'est on doit. Est-ce qu'on doit s'occuper de nos frères et sœurs qui souffrent d'épilepsie?
Alors moi, je le vois un peu plus, on va dire, je vais mettre un peu de bémol là-dedans. Devoir est un bien grand mot. Ouais. Hein, on fait ce qu'on peut surtout, parce que c'est pas simple de devoir s'occuper d'un frère ou d'une sœur en situation de handicap. Ça paraît naturel pour des parents de s'occuper de leur enfant en situation de handicap. Pour des frères et sœurs, la place n'est pas tout à fait la même. Ils sont là pour voilà, partager des bons moments, accompagner au quotidien, mais s'occuper d'eux, c'est comme une place qui est très lourde.
Bon, on va évidemment en reparler, hein. On est là, on a une heure pour discuter de cette thématique-là, hein. Est-ce qu'on doit s'occuper ou comment on doit vivre avec son frère ou sa sœur qui souffre d'une épilepsie? Est-ce que Céline ou Aurore, vous avez des choses à redire sur ce qu'on vient d'entendre dans le micro-trottoir? Céline, peut-être?
Oui, bah effectivement, je rejoins Leslie, on entend être obligé de le faire. Alors oui, il y a une forme de solidarité familiale et c'est plutôt normal. Et pour autant, il y a la question du partage des responsabilités, dans quelle mesure aussi on peut s'autoriser à ne pas toujours aider pour grandir aussi et prendre des libertés par rapport à ça. Et on entend aussi, oui, dans le partage des responsabilités, comment on peut trianguler à l'intérieur de la famille avec des établissements, avec les médecins. Voilà, je pense que...
Oui, on entend bien, effectivement, et on reviendra, j'imagine, sur ce sujet-là. J'entendais quelqu'un qui dit on n'est pas des professionnels. Donc, voilà, on peut aussi être amené à commettre des erreurs ou pas. En tout cas, on n'est pas formé, quoi. Aurore, une réaction à ce qu'on vient d'entendre dans le micro-trottoir?
J'aurais dit la même chose, voilà, tout simplement.
Pas mieux.
Pas mieux.
Parfait, merci beaucoup. La deuxième question que vous êtes allé poser aux gens dans la rue, c'était...
Quelle est la place, le rôle d'un frère ou d'une sœur lorsqu'il y a un enfant épileptique dans la famille?
Eh bien voilà, on va affiner un petit peu cette thématique.
D'être bienveillante envers elle et de lui apporter un soutien.
C'est une place comme une autre, c'est... Certes, il y a cette maladie, je ne sais pas si c'est une maladie reconnue, mais cette maladie, mais c'est une personne comme une autre.
Bah, c'est de lui dire qu'elle est toujours présente pour elle et pour lui, lui donner envie d'évoluer, parce que je pense qu'on peut évoluer même en étant comme ça.
Bah, il doit se souvenir d'abord les parents, parce que c'est compliqué pour les parents sûrement. Et par exemple, s'il doit l'emmener, si c'est un adolescent, on va dire, il doit peut-être l'emmener dans ses consultations, s'il a l'âge, bien sûr, il a plus de 16 ans, puis l'accompagner, puis lui chercher ses médicaments.
Oui. Beaucoup protecteur, oui.
L'idée, c'est d'être le plus possible pour lui, pour l'aider dans cette situation quand même. Parce que c'est pas forcément quelque chose de facile.
Alors là, on entend beaucoup de choses. Hein. On entend ce qui est du registre de la bienveillance, mais on entend aussi ce jusqu'à soutenir les parents. C'est-à-dire que d'un seul coup, le frère, la sœur devient le parent du parent, quelque part. Vos réactions, peut-être, Lise, quelque chose à dire?
Par exemple, pour les médicaments, c'est pas moi qui va chercher les médicaments pour ma sœur, c'est mon papa, surtout. Et moi, je trouve qu'on ne peut pas aller chercher les médicaments d'une sœur épileptique parce qu'on ne sait pas lesquels prendre et tout ça. Voilà.
Oui, puis c'est peut-être pas non plus complètement le rôle d'une sœur.
Parce que nous, on a d'autres choses à faire. On a l'école, on a les copines, les copains, voilà, tout ça.
Beaucoup de responsabilités.
Oui, justement, du coup, vous en pensez quoi, vous, Emeline, de ce qu'on vient d'entendre?
Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont assez justes, notamment le rôle de protecteur, parce que c'est vrai qu'en fait, quand nos parents ne sont pas là, et que du coup, on sait que notre petit frère ou notre petite sœur est un peu livré dans le monde normal, on va dire, notamment à l'école. Moi, je sais que quand j'étais petite, j'avais la cour qui donnait sur la cour maternelle de mon petit frère. Et du coup, j'avais toujours un œil en fait, pour surveiller ce qui se passait, au cas où s'il faisait une crise. Après, il y a aussi le rôle de soutien des parents, parce que c'est vrai que souvent, ils sont un petit peu débordés avec tout ce qui se passe, donc ils ne savent pas trop comment faire. Et mine de, c'est une façon aussi de participer à la vie de la famille, donc c'est important. Et en même temps aussi, il y a quelqu'un qui a dit que justement, c'était aussi... le frère ou la sœur qui pouvait aider à développer l'enfant. C'est vrai que souvent, moi, mes parents, ils se disaient ton petit frère est handicapé, donc il peut pas. Et moi, en tant qu'enfant normal, on va dire, je voyais bien qu'il était capable de faire des choses. Et du coup, je le poussais à faire des petites choses simples, par exemple, juste remettre sa serviette ou se brosser les dents tout seul. Et donc voilà, c'est des choses qu'il faisait pas avec mes parents, parce que mes parents avaient tendance à le faire pour lui.
Un peu un rôle de stimulation, quelque part. Leslie, ce qu'on vient d'entendre?
C'est très important, le rôle du frère et de la sœur face à un enfant en situation de handicap. Là où il faut faire attention, c'est la parentalisation, effectivement. Il ne faut pas prendre la place des parents, il ne faut pas non plus mettre l'enfant à une place qui n'est pas la sienne. Il faut lui laisser sa place d'enfant aussi, hein, de frère et de sœur, de stimulation, si c'est un petit frère ou une petite sœur. Mais comme on le ferait avec n'importe quel autre frère et sœur.
Oui, c'est ça. En fait, il faut décorréler à un moment donné la place du frère et de la sœur. Et la maladie,
La maladie, voilà. C'est un frère et une sœur avec une maladie. Donc c'est une adaptation, effectivement, vous avez vécu comme ça, vous avez grandi comme ça, c'est normal pour vous, donc ça ne vous pose pas de soucis. Vu de l'extérieur, on se dit, oh, bah, la pauvre, le pauvre, il doit s'occuper de son frère ou de sa sœur en situation de handicap, mais il faut aussi que vous ayez votre place. Effectivement, l'école, les copains, les centres d'intérêt, les hobbies, voilà, il faut continuer à pouvoir vivre normalement.
Et on en reparlera tout à l'heure, je voudrais qu'on revienne tout à l'heure sur la place que vous jouiez à l'école, effectivement. Emeline, vous nous raconterez un peu comment vous avez vécu votre scolarité aussi. C'est des choses qui sont importantes d'entendre. Aurore, peut-être
oui, une réaction. J'avais trouvé qu'il y avait pas mal d'optimisme justement dans les réponses des passants par rapport au côté on booste en fait en gros le frère, la sœur, voilà.
Oui, on l'a entendu, ouais, oui, de l'envie d'évoluer.
Avec la vigilance, effectivement, que les rôles ne s'inversent pas par rapport aux parents. Ouais, c'est ressorti souvent.
Bon, puis effectivement, un protecteur, on entendait ce mot-là tout à l'heure, mais ça, c'est, je crois, dans toute relation de fratrie, quelle qu'elle soit, en général. Céline, je voulais dire quelque chose par rapport à ce micro-trottoir.
Non, pas en particulier.
Donc, on va avancer et prendre la question suivante. Quelle est la dernière question qu'on est allé poser aux gens dans la rue?
Est-ce que vous pensez que cela peut changer la vie d'un frère ou d'une sœur?
Eh bien, on écoute les réponses tout de suite.
Ah oui, bien sûr, ça change forcément sa vie, puisque c'est un tournant. Il sera obligé de, du coup, d'accompagner, de perdre un petit peu de temps. Des fois, au lieu de travailler, il va s'occuper de lui. S'il a une crise en urgence et qu'il n'y a pas les parents, donc c'est sûr que ça va changer sa vie.
On peut apprendre des choses qu'on n'apprendrait peut-être pas si le frère et sœur étaient normal.
Bah, juste être prudent et connaître les gestes de premier secours si ça arrive, mais autrement... Comme je l'ai dit, oui, c'est vivre avec une personne à part entière.
Bah, je pense qu'on développe des qualités humaines beaucoup plus fortes.
Oui, bien sûr, ça va changer le mode de vie parce qu'on va faire attention à plus de choses qu'avant.
Bah oui, parce qu'il doit quand même prendre en compte l'handicap de sa sœur.
Oui.
Et donc du coup, bah, ça joue quand même un rôle sur lui au quotidien.
On comprend bien hein, que malgré tout, la place de la maladie va quand même avoir... en tout cas, la maladie va prendre une place hein, dans la relation de fratrie. Leslie, peut-être un mot et après on redonne la parole à nos témoins sur ce qu'on vient d'entendre là, justement.
Il est sûr que la maladie vient chambouler l'ordre naturel des choses, hein, on va dire. C'est une expérience qui va vous enrichir, qui va vous faire voir le monde différemment. Excusez-moi, je bafouille.
Pas de souci, on a le temps.
Et qui va aussi vous donner une expérience que les autres frères et sœurs n'auront peut-être pas non plus. Quoi.
On l'a entendu, hein, qu'on développe des qualités peut-être différentes. Je me tourne vers vous, Lise et Emeline. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir développé des qualités différentes?
Oui. Un peu de responsabilité par rapport à ma sœur. Quand elle fait une crise, une absence, quand on mange par exemple et que mes parents sont occupés à parler à mon frère ou tout ça, je remarque tout de suite et c'est assez compliqué parce que elle est fatiguée, elle clignote des yeux, donc elle est plus là pendant au moins 5 minutes, donc je la réconforte et tout ça, mais oui, beaucoup de responsabilité surtout.
On entend le mot est important, hein, le mot de responsabilité, on y reviendra tout à l'heure. Emeline ?
Moi, je pense que du coup, quand on a un frère handicapé, on devient mature plus rapidement que les autres enfants. C'est vrai que du coup, comme disait Lise, il y a la responsabilité, et du coup, la responsabilité, ça fait grandir. À côté de ça aussi, il y a beaucoup d'empathie, et je sais que moi, j'ai tendance à plus penser aux autres qu'à moi, parce que du coup, j'ai toujours eu l'habitude de penser à mon frère d'abord. Et c'est vrai qu'il y avait aussi cet aspect de gestion de crise d'urgence, on va dire. J'ai notamment une petite histoire. Quand j'avais 9 ans, je suis partie avec ma tante qui connaît mon frère, mais qui n'avait jamais assisté à une crise d'épilepsie. Et donc, mon frère a fait une crise dans la voiture. Et donc, ma tante, toute paniquée, m'a dit « Ah, ben, il faut appeler les pompiers, on s'arrête. » Enfin, voilà. Ça faisait 10 minutes qu'on était partis, mais bon. Et moi, du haut de mes 9 ans, je lui dis « Bah non, c'est bon, t'inquiète pas. » Il fait sa crise, et après il se repose, on reste juste assis quelques minutes dans la voiture, et ce sera bon. Et on peut repartir. Et donc, elle était un petit peu choquée, mais du coup, elle a dû me faire confiance, parce que moi, je connais mon frère.
Et bien sûr. Ça développe quand même, on voit bien hein, qu'il y a des qualités qui sont développées de peut-être mieux lire l'autre que ce que ferait n'importe quel frère ou sœur dans une relation, on va dire, où, tout à fait courante. Quoi.
Ils deviennent experts.
Oui, c'est ça. Oui.
Ils deviennent experts de leur frère ou de leur sœur. Ils savent déceler les signes, les choses qui pourraient les faire criser, comment ils vont être après, le type de crise qu'ils font, est-ce qu'il faut prévenir ou pas, en fonction du type de crise aussi. Donc oui, ils deviennent des vrais experts et des vrais fins limiers sur les crises d'épilepsie, hein, et sur comment fonctionnent leurs frères ou leurs sœurs.
En fait, même s'ils restent des frères et sœurs, ce sont aussi et avant tout des aidants.
Aussi, tout à fait.
Peut-être pas avant tout, mais en tout cas, ils ont un rôle d'aidant.
Ils font partie de la famille, ils baignent là-dedans, donc ils ont un rôle d'aidant, à moindre mesure que les parents, normalement. Hein, mais, voilà. Mais effectivement, en grandissant aussi, en fonction aussi de la situation familiale, et puis ben, c'est quand les parents viennent à partir aussi, ils prennent cette place d'aidant.
Bien sûr.
Complètement.
En discutant avec vous, Lise et Emeline, on essaiera de voir un petit peu comment vous avez vécu cette enfance, parce que vous l'avez vécu avec vos frères et sœurs qui souffraient d'épilepsie. Est-ce que, c'est une question que je vous poserai, hein, vous pouvez déjà y réfléchir, mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir vécu votre enfance? C'est une vraie question, me semble-t-il. On en parlera dans un instant. Je vous propose, sauf si vous vouliez réagir peut-être Céline ou Aurore sur ce qu'on vient d'entendre dans le micro-trottoir.
Bah, effectivement, je rebondirai sur ce que disait Emeline, la question de la maturité, oui, peut-être, qui vient plus tôt, plus vite, hein, et puis un regard aussi porté sur l'autre, une attention et une compréhension du fonctionnement de l'autre qui est peut-être un peu plus vite développée, plus accrue que lorsqu'on n'a pas ces épreuves, ces expériences-là à vivre. Ouais.
Et ben on en parle dans un instant. Je vous propose qu'on écoute d'abord un titre. Alors, allez, on va commencer par Jade Lemac, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ce titre s'appelle Constellation.
Oui.
Lise, c'est toi qui l'as choisi. Pourquoi ? Oui. Tu peux me dire un petit mot sur cette chanson que tu as envie d'écouter ?
Parce que bah, quand je l'écoute, elle me rend heureuse.
Et ben alors, on va passer un petit moment où on va te rendre heureuse, en tout cas je l'espère, avec Jade Lemac maintenant sur RCN.
Lights are turned off, music is on, minds are unlocked, this feeling is amazing, hands on your waist, liquor is all that we taste, your freckles lead the way, I chase your constellations, I see you in your eyes. Blows west where the sun don't rise, yes. You've got a darker side. You know it's all mess, but you don't need to hide, yes. The sweat is dripping down, caresses your skin till it hits the ground. You're digging deeper now, you're biting your lips so you don't make a sound. Lights are turned off, music is on, minds are unlocked, this feeling is amazing, hands on your waist, liquor is all that we taste, your freckles lead the way, I chase your constellations, now we're four shots in, slowly getting sober from the taste of your skin. Bring the light to the sin. You pull my head up as you're dripping down my chin. I feel your heart start to beat. When I hit the spot, you know I hit it perfectly, yeah. And you taste so sweet. Leave me wanting more soon as we get out the sheets. Lights are turned off, music is on. This feeling is amazing. Hands on your waist, liquor is all that we taste. Your freckles lead the way. I chase your constellations. Now you're gone in a blink of an eye. I try to remember what you look like. Orion's bow in the sky. Closest thing to you other than. Lights are turned off, music is on, minds are unlocked, this feeling is amazing, hands on your waist, liquor is all that we taste, your freckles lead the way, I
10h-11h sur RCN, et puis c'est tout.
Aujourd'hui, on parle de fratrie et de la relation entre frères et sœurs quand s'invite au cœur de cette relation l'épilepsie. On a pour ce faire Leslie, un psychologue à la MAS de Dommartin-les-Toul, maison d'accueil spécialisée, mais aussi Emeline et Lise qui toutes les deux sont grandes sœurs d'un petit frère ou d'une petite sœur qui souffre d'épilepsie. Et si vous permettez, avant de vous donner la parole, je vais me tourner vers Leslie pour voir un petit peu comment, de son point de vue de psychologue, on devrait imaginer la relation de fratrie quand s'invite une épilepsie. C'est très difficile, on a entendu beaucoup de choses dans le micro-trottoir il y a quelques minutes, et on y reviendra dans quelques instants. Une question qui me paraît importante de vous poser à toutes les deux, c'est quelle a été la place de votre enfance aussi, parce qu'il ne faut pas non plus complètement s'oublier, parce qu'il y a une maladie qui s'est invitée. Mais comment est-ce qu'on fait justement pour ne pas s'oublier? Quel doit être le rôle et la place d'un frère, d'une sœur, lorsque s'invite l'épilepsie?
Alors, il n'y a pas de recette magique, hein, bien sûr. ce serait trop simple. On essaie de faire au mieux de ce qu'on peut. Le principal, c'est d'accepter aussi qu'il y ait des fois des moments où on a très envie que ce frère ou cette sœur ne soit pas forcément là et qu'on puisse avoir sa place, hein, en tant qu'être humain et pas seulement en tant que frère et sœur de... C'est comme si vous aviez un frère ou une sœur célèbre, hein, c'est pareil. Il prend toute la place. Voilà, les parents sont focalisés dessus et c'est pas toujours évident d'être le frère ou la sœur de quelqu'un qui est en situation de handicap et qui capte toute l'attention des parents. Donc il y a plein de choses que les enfants peuvent faire, mais garder leur jardin secret et garder leur univers à eux, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Qu'ils puissent se construire eux dans leur individualité et pas seulement en tant que frère ou sœur.
Et donc on le redit, pas se construire au travers non plus cette maladie qui touche leur frère ou leur sœur.
Ils seront forcément impactés, donc de pouvoir garder quelque chose à eux, de faire preuve d'un tout petit peu d'égoïsme, et dans le bon sens du terme, hein. L'égoïsme n'est pas forcément quelque chose de négatif.
C'est pas toujours facile, on voit bien qu'en tout cas dans la représentation que se font même les gens qu'on a interrogés dans la rue, ils ont aussi, les enfants, un rôle à jouer auprès des parents. Enfin, on a entendu tout à l'heure qu'ils devaient aussi aider leurs parents, c'est difficile. Cette situation, est-ce qu'elle doit exister déjà? Est-ce que le grand frère, la grande sœur, le petit frère, la petite sœur, est-ce qu'à un moment donné, elle doit aussi jouer un rôle pour accompagner son parent dans la gestion du quotidien du frère ou de la sœur qui souffre d'épilepsie?
Alors, idéalement, mais vraiment très idéalement, dans un monde bisounours, non. Il ne devrait pas avoir ce rôle-là. Il devrait avoir un rôle que de frère ou de sœur. Mais bon, on sait bien que dans la vie, ce n'est pas aussi simple que ça. Les parents sont effectivement débordés face à un traumatisme qui a touché tout le monde, hein, de toute façon. Hein, c'est un tsunami pour tout le monde.
Bien sûr.
Donc tout le monde essaie de se trouver une place dans cette famille, dans cette configuration, dans ce mode de fonctionnement. Et chacun essaie de se débrouiller comme il peut avec les relations. Chacun a son histoire de vie aussi, hein, ce que ça a rejoué pour les parents, ce que ça va jouer pour les enfants. Et tout ce qui va rentrer en ligne de compte. Donc il n'y a pas de solution idéale, il n'y a pas de schéma idéal. Le principal, c'est de pouvoir se dire les choses quand c'est trop. Et je mets toujours l'accent là-dessus, la communication entre parents et enfants, de dire là, moi je ne peux plus, moi j'en ai marre de ce frère ou de cette sœur, je veux du temps à moi, je veux qu'on s'occupe de moi, je veux qu'on me regarde moi aussi. Il n'y a pas de raison, quoi.
C'est quelque chose qu'il faut que des parents puissent entendre aussi là, dans ce qu'on se dit aujourd'hui. C'est, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la maladie dans les frères et sœurs ou dans les enfants que vous avez eus, il y a aussi des enfants individuels qui ont besoin d'être respectés dans leur individualité.
Aussi, et puis simplement dans l'histoire familiale, quoi, qu'il y ait des bons moments aussi qui se construisent. Hein. Le handicap n'est pas que torture.
Hein.
Il y a aussi des bons moments, il y a aussi des moments où on rigole, des bons souvenirs à construire, et il faut les construire tous ensemble le plus possible. Et il ne faut pas hésiter à se faire aider aussi pour pouvoir prendre cette distance-là. Parce que quand on a le nez dans le guidon et qu'on doit s'occuper d'un enfant en situation de handicap H24, c'est difficile aussi d'en sortir et de pouvoir déjà en tant que parent s'occuper de soi et de réussir à prendre soin aussi de ses autres enfants. Donc, alors, il ne faut pas hésiter à aller voir des professionnels.
J'allais vous demander comment est-ce qu'on se fait aider, justement. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Il y a la maison des aidants qui peut soutenir. Vous avez la famille, vous avez toute personne, des psychologues, effectivement. Précieux pour ma paroisse, forcément. Mmh. Mais toute personne qui peut permettre d'avoir un petit peu de répit, de penser autrement, de voir autrement et de faire les choses avec un peu plus de légèreté.
Et puis, pardon, je réagis juste, je te redonne la parole à Priscille, mais quelque part, c'est aussi pour la famille, que ce soit les enfants mais même les parents, leur espace de liberté aussi. C'est un endroit où ils vont pouvoir avoir leur espace, où ils vont pouvoir exister et dire tout ce qu'ils ont au fond du cœur.
Oui.
C'est important.
Ah bah, c'est important de pouvoir dire tout ce qui nous traverse quand on vit ce genre de situation. On a besoin de dire où on en est, de pouvoir faire face aussi à ces émotions, même négatives. Elles sont là de toute façon, il n'y a pas photo, mais c'est pas très grave. On est humain, on a des émotions négatives, positives, et en les accueillant, on arrive plus facilement à passer par-dessus et à pouvoir avancer qu'en les réprimant et en gardant une rancune envers ses parents, envers son frère ou sa sœur, ou envers le monde entier.
Et c'est pas pour faire la pub à votre paroisse, mais c'est pour dire aussi que, cela dit, vous êtes un psychologue, c'est un espace où on peut tout dire sans être jugé et où rien ne ressortira.
C'est-à-dire
qu'effectivement, on peut vraiment tout lâcher.
C'est un lieu de liberté complète. Moi, je dis toujours aux résidents dont je m'occupe ou aux personnes dont j'ai pu m'occuper, vous avez le droit de venir et de dire tout ce que vous pensez, comme vous le pensez, avec les mots que vous voulez. On prend tout.
C'est ça.
On prend tout et après, on fait le tri, on remet les choses un peu en place. Mais vous avez le droit de tout dire et de tout ressentir.
Ça, c'est important de le dire. Céline, tu voulais...
Ouais, je pensais en lien avec ça, s'autoriser effectivement à la colère, à dire non, à dire non aussi, j'existe par ailleurs et j'ai envie moi de faire autre chose. Et peut-être qu'en complément de ces pistes-là, il existe aussi, et de plus en plus, parce que la question des enfants aidants, on commence seulement à en parler, ça, c'est somme toute assez récent, et il existe maintenant des plateformes de répit ou d'autres groupes qui proposent, alors sans parler de groupes de parole, mais des groupes fratries, qui permettent justement aux frères et sœurs de se retrouver avec d'autres frères et sœurs et d'avoir un espace de parole, de jeu, de discussion libre qui soit en dehors du cercle familial et qui peut du coup amener un autre contexte de liberté aussi, de parole et de
oui, parce que c'est
libération de ce
que tu dis là me paraît important, c'est-à-dire qu'effectivement c'est peut-être plus difficile pour un enfant de dire à ses parents j'en peux plus, j'en ai marre, que de pouvoir le dire, et vous nous le direz dans un instant j'imagine, mais que de pouvoir le dire dans des espaces où il y a d'autres enfants comme vous qui vivent ces situations et qui partagent et comprennent ce que vous dites. Vous avez déjà expérimenté ces espaces de répit, ces endroits où...
Non, j'aurais bien aimé.
J'aurais bien aimé aussi.
Voilà, donc comme quoi c'était bien
pas développé. C'était pas développé. Ça commence seulement et c'est extrêmement important qu'on y pense et qu'on puisse y recourir. Parce qu'effectivement, je crois que parler devant ses parents, Leslie en avait aussi parlé. On a toujours peur de rajouter de la peine à la peine. C'est une expression de Leslie que je trouve très très juste. Et comment on peut parler de ça sans justement. On veut décharger ses parents.
Bien sûr.
Donc c'est toujours compliqué à aborder.
Bien sûr. Je voudrais revenir sur la notion de, on le disait tout à l'heure, de développer des qualités différentes, peut-être plus vite aussi, la maturité. C'est quelque chose que vous constatez en qualité de psychologue qui accompagnait des situations comme celle de l'épilepsie, justement?
Oui, de toute façon, les enfants qui sont amenés à vivre des situations un peu plus complexes, comme les enfants hospitalisés, les enfants qui sont effectivement qui vivent avec une fratrie avec un handicap, grandissent plus vite, sont face à des situations auxquelles les autres enfants ne sont pas mises en œuvre, voilà, vous vivez des situations, les crises, etc. Enfin, c'est des choses qui sont impressionnantes, qui sont un peu traumatisantes les premières fois, surtout quand c'est des grosses crises d'épilepsie chronique avec voilà. Donc et la peur de ce qui peut y avoir par au-dessus, le sentiment de mort qui peut y avoir, enfin plein d'émotions que des enfants n'ont pas à gérer en général et que vous avez eu des fois à gérer quand ce sont des grosses crises qui viennent.
Oui. Et puis qu'elles vivent de près ou de loin, de toute manière. Donc, forcément, quand c'est son frère ou sa sœur, j'imagine que même si c'est de loin, on le prend dans la figure, quoi.
Oui. Puis ça reste le sang, quoi. Enfin, c'est votre frère ou votre sœur, quoi. C'est,
je dirais pas qu'on le vit de loin, parce que du coup, on le vit quand même de près. On est toujours à côté. Oui. Parce qu'en tant qu'enfant, c'est justement, on joue avec son frère et sa sœur, donc on est toujours à côté. Ouais. C'est moi la première qui a vu la première crise de mon frère. Donc, c'est moi qui suis allée prévenir mes parents. Donc, voilà.
Vous allez nous en parler justement, Emeline. Ça tombe bien que vous parliez, je voulais me tourner vers vous. Alors racontez-nous un petit peu, on a envie un peu de découvrir votre histoire à toutes les deux, mais on va commencer par vous, Emeline. Donc vous nous le dites, j'ai été la première à voir la première crise de mon frère.
Oui. On était en vacances. Enfin, selon mes souvenirs, après, c'est des souvenirs d'enfant. Voilà, j'avais 9 ans, mon frère en avait 3 ou 4. Et donc, en fait, simplement, c'était l'heure de la sieste. Mes parents étaient en train de dormir à l'étage du bas. Et puis, en tant qu'enfant, forcément, on partage la même chambre que son frère ou sa sœur. Et du coup, c'est là qu'il a fait un mouvement bizarre. Et donc, du coup, c'est là où je suis allée les prévenir. Donc, voilà, mais sur le coup, on ne savait pas ce que c'était. Donc. Voilà.
Vous ne le comprenez pas à ce moment-là.
Non.
Donc, jusqu'à ses 3 ans, ouais. C'est bien ça, la vie se passe tout à fait normalement pour vous ?
Oui et non, parce qu'en fait, à l'âge de 6 mois, il a fait une méningite.
D'accord.
Et donc, il est resté en fait, à l'hôpital pendant une semaine. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, il avait 6 mois, donc c'est un tout petit bébé. Et du coup, mes parents se sont tout de suite retrouvés un petit peu dans le jus, quoi, dans la tête dans le guidon, comme
bien
on
sûr,
dit.
Ouais.
Et c'est vrai que j'ai tout de suite compris que en fait, mon frère allait avoir une place différente. Et que le fait... notamment, je me souviens quand je suis revenue, parce qu'on était chez la nourrice, et moi j'avais 6 ans, et mon petit frère, il était parti. Quand je suis rentrée, en fait, tous les midis, je le voyais, c'était mon petit frère. Quoi. Et là, d'un coup, je vois la chaise de bébé vide, je comprends pas tout de suite, et puis après, j'ai vu que les jours qu'on suivit, mes parents, ils étaient plus là, quoi. Ils étaient avec mon frère, quoi. Ouais. Donc voilà, je sais pas comment ils ont vécu les mois, on en parle un petit peu maintenant, parce que c'est vrai que sur le coup, comme Lestie disait, c'est difficile d'en parler. C'est difficile de trouver les mots, surtout quand on a un autre enfant à côté. Déjà, c'est difficile de prendre du recul pour pouvoir dire les bonnes choses. Et ensuite, trouver les mots pour l'expliquer à un enfant, c'est encore plus dur. Mais je pense que ça m'aurait aidé s'ils avaient réussi. Mais je leur en veux pas, parce que ils étaient dans l'urgence.
Vous avez donc 6 ans, vous comprenez que votre place sera plus tout à fait la même.
Ouais.
Comment vous vivez ce moment-là ?
À 6 ans, on ne se rend pas trop compte, en fait. C'est vraiment par la suite où, justement, on ne savait pas trop ce qui allait se passer par rapport à mon frère, en fait, parce que du coup, les diagnostics se sont faits au fur et à mesure. Et notamment, c'est quand il est rentré à l'école maternelle où, là, du coup, je voyais bien qu'une maîtresse pour 30 enfants, et mon petit frère est un peu particulier. Et comme je disais, moi, j'avais ma cour d'école de l'école primaire et il y avait la cour maternelle qui était en contrebas. Et je savais dire exactement quand est-ce qu'il était de ce côté-là pour pouvoir surveiller. Et en même temps, ce que j'ai trouvé génial, et c'est fou les enfants, c'est qu'en gros, il avait 2 copines de classe qui le surveillaient. Et du coup, dès qu'il faisait une petite absence ou quelque chose comme ça, elle restait à côté. Et ça, j'ai trouvé génial. Et
ça vous a un peu soulagé quelque part ?
Oui, complètement.
Parce que, donc à 9 ans, hein, votre frère rentre vous avez 9 ans, il a 3 ans quand il rentre à l'école maternelle, mais vous avez déjà conscience que vous devez le protéger à ce moment-là ?
On en a conscience assez vite, parce que c'est vrai que, en fait, en tant qu'enfant, les enfants imitent toujours leurs parents. Donc, c'est vrai, le jeu d'imitation, ça commence très tôt. Donc, quand on voit que nos parents sont déjà en train de défendre, de protéger, protéger son petit frère ou sa petite sœur, forcément on imite, on fait pareil. Donc voilà, et je sais que moi j'avais une petite inquiétude, c'était quand je partais au collège, c'est que je me suis dit au collège en fait je le verrai plus. Et j'ai été très très heureuse, très soulagée on va dire, parce que c'est à ce moment-là qu'il est parti en institut. Comme il avait du coup le diagnostic bon pour partir en institut, je savais qu'il allait être dans de bonnes mains.
Mais vous avez, si je vous entends, vous avez vécu votre scolarité, en tout cas jusqu'au collège, toujours en pensant à votre frère.
Oui.
Et vos relations avec les copains, vous arriviez à avoir une vie à peu près normale à côté à l'école. Est-ce que vous estimez que vous avez eu l'enfance et la scolarité d'une petite fille de 9 à 12 ans ?
Alors, jusqu'au lycée, je pensais que c'était écrit sur ma tête que j'étais frère ou sœur d'un enfant handicapé, du coup. Pour moi, c'était logique et j'en parlais même pas parce que pour moi, ça se voyait. Voilà. Après, au niveau des copains-copines, je pense que oui, j'ai une scolarité normale. La seule chose, c'est quand mes copains-copines parlaient d'être vétérinaire ou astronaute. Moi, c'était pas du tout mon truc. Moi, je voulais être agent EDF, parce que mes parents sont agents EDF, étaient agents EDF. Et je savais qu'ils avaient des bons revenus et qu'il y avait des centres de vacances bien. Et en fait, j'étais persuadée qu'il fallait que j'anticipe l'avenir pour mon petit frère, parce que je savais pas où est-ce qu'il allait être placé. Et du coup, j'avais peur que ça coûte cher.
Il y a toujours cette partie-là hein, chez vous. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que, comme beaucoup d'enfants, vous voyez vos parents qui font un métier, vous avez envie de faire le même métier. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent ça. Puis de gagner de l'argent quand on est ces âges-là, c'est logique d'y penser. Mais vous, il y a quand même cette idée-là. C'est je le fais, mais parce que je veux pouvoir mettre mon frère en sécurité.
Voilà, c'est ça. Et puis par la suite, après, j'ai voulu m'orienter vers le milieu médical pour justement être dans un institut pour être sûr qu'il soit bien traité. Quoi.
Et vous travaillez où aujourd'hui ?
Ah bah aujourd'hui, j'ai complètement changé. C'est à 18 ans que j'ai choisi de penser à moi. Et j'avais une passion, c'est le dessin. Et du coup, je suis devenue architecte.
Fantastique. Voilà. Et bon, vous aurez attendu 18 ans pour commencer à penser à vous, si je vous entends bien.
Voilà.
Et je vais vous poser la question. Est-ce que pour vous, ça a été une enfance... Enfin, comment vous avez vécu votre enfance ? Est-ce que vous l'avez vécu, tout simplement ?
Bah, je pense que oui, parce qu'on la vit dans tous les cas, peu importe la façon. Après, la différence, c'était qu'au niveau, justement, on disait de l'attention. J'essayais d'attirer l'attention de mes parents. J'essayais de différentes façons. J'essayais d'être à la fois la meilleure à l'école, la première de la classe, pour qu'ils soient fiers. Et en même temps, parfois, quand je ramenais des 2 sur 20, bah, je voyais que ça ne faisait pas la différence. Donc voilà, c'était, ils étaient... complètement, enfin, ils étaient occupés par mon frère, donc là-dessus, il fallait trouver d'autres façons. Et ce que je voulais dire aussi, attendez, j'ai un trou. Oui, c'est que justement, en fait, je savais que mon frère, il y avait des choses qu'il pourrait pas vivre, une fierté qu'il pouvait pas apporter à mes parents. Et donc, du coup, mon objectif, c'était de préparer l'avenir pour essayer de vivre le plus possible, on va dire, pour rendre fiers mes parents.
Et aujourd'hui, avec vos parents. Alors bon, on connaît votre maman, hein, Agnès, qui est déjà venue plusieurs fois ici dans cette émission témoigner et qu'on voit régulièrement. Votre relation avec vos parents, est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi à attraper leur attention, leur fierté ? Est-ce que j'entends ça dans ce que vous nous dites ?
Ouais. En fait, c'est vrai que tant que mon frère vivait chez mes parents, c'était difficile de leur parler. Parce que du coup, mine d'eux, on est toujours vigilant à ce qui peut se passer, à ce qui peut lui arriver. Donc du coup, on ne pense pas forcément à soi, ni à la personne qui est à côté. Donc pour discuter, ce n'est pas forcément l'idéal. Et j'ai vu vraiment la différence quand mon frère il est allé à la messe de Martin les Toul, où justement, ça a libéré en fait, mes parents, où ils ont appris à vivre un petit peu plus pour eux-mêmes, parce que du coup, ils avaient du temps, donc il fallait qu'ils s'occupent. Et du coup, ils se sont rendus compte que j'étais là aussi. Et ça nous a permis de reconstruire une relation et justement de discuter surtout. Je sais qu'à l'âge de 20 ans, mon papa m'a remercié parce qu'il m'a dit, tu sais, Emeline, je suis vraiment reconnaissant que t'es pas mal tournée. Parce que du coup, si toi aussi, tu nous avais causé des problèmes, bah, je ne sais pas où est-ce qu'on en serait aujourd'hui. Et là, ma maman, il lui a fallu un petit peu plus de temps. C'était l'année dernière et où elle m'a remercié justement d'avoir une vie. Parce que du coup, je me suis mariée, j'ai un enfant. Et donc du coup, c'est vrai que par rapport à mon frère qui, par rapport à sa maladie, en fait, ça ne va pas évoluer. Donc il va toujours rester un petit peu à ce stade d'enfant-adulte. Et moi, à côté de ça, justement, j'apporte une dimension plus temporelle. Voilà.
On sent le poids des responsabilités qu'Emeline a apporté. Si je peux me permettre, hein, ne prenez pas ça pour un jugement de valeur du tout. Hein, mais moi, ce que je ressens quand je vous entends, c'est que vous avez porté la responsabilité de votre frère, la responsabilité de réussir votre vie parce que votre frère ne pourra pas la réussir de la même manière, la responsabilité de ne pas décevoir vos parents. C'est lourd pour un enfant, Leslie.
C'est très, très lourd. C'est très très lourd à porter. Vous êtes franchement très
hyper courageuse, hein, hyper courageuse. Forte,
c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure quand on a préparé l'émission la semaine dernière. Elle m'a épatée, quoi. On était au téléphone, je me disais waouh, c'est impressionnant, quoi, d'avoir pu prendre ce recul par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à tout ce que tu as traversé avec ta famille. C'est franchement, c'est chapeau, quoi. Mais c'est vrai que c'est lourd pour un enfant de porter ça.
Je vais vous poser une question, vous n'êtes pas obligé de répondre parce qu'on est en direct, parce que peut-être que vos parents vous écoutent, mais vous leur en avez voulu?
C'est difficile à dire. Non, jamais, jamais vraiment. Il y a eu des petits épisodes où ça a été très difficile pour moi à vivre. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu tendance à me tourner vers d'autres adultes, notamment la sœur de ma maman qui a été très présente pour moi. et notamment aussi la mère d'un petit copain à l'époque. Voilà, c'était vers elle que je me tournais quand j'avais besoin de parler. Et la seule chose qui a été difficile pour moi, c'est que quand justement mon petit frère au début a commencé à... Enfin, ça commençait à être de plus en plus lourd. Mes parents, justement, ils lui offraient beaucoup de cadeaux.
Ah. Et les amis, ils vivent la même chose, visiblement. Voilà, oui.
Et j'avais l'impression qu'ils l'aimaient plus que moi. Et du coup, c'était assez difficile à vivre, ce point-là. J'étais très jalouse. Et en fait, c'était un moment vers mon adolescence où du coup, à un moment, j'ai pris ma mère entre quatre yeux et je lui ai dit pas pourquoi tu lui offres plein de trucs, quoi. Parce que moi, quand je voulais avoir quelque chose, il fallait que je travaille, que je rame, quoi. Et du coup, elle m'a dit, et c'est là qu'elle a été très humaine et très transparente et que ça m'a permis de comprendre, c'est qu'elle m'a dit, mais ton frère, il a que ça pour être heureux. Et je dis, d'accord, ok. Bah, je comprends maintenant. Et du coup, la jalousie est partie à ce moment-là, mais si elle ne me l'avait pas dit, ça aurait été compliqué.
Après, je peux vous rassurer, hein, l'aîné, c'est aussi toujours un peu plus difficile que les suivants. Hein. En général, il faut déjà tout, il faut ouvrir les portes. Hein. Mais effectivement, on entend cette difficulté. Et alors, vous nous avez dit, j'ai parlé avec ma mère il n'y a pas si longtemps, mon père un peu plus. Mais pour recréer cette relation avec vos parents, est-ce que vous avez fait appel à des professionnels ou est-ce que vous avez réussi à le faire seul et entre vous? Comment vous avez fait?
Alors, j'aurais bien aimé à l'époque faire appel à des professionnels. Justement, j'avais essayé de discuter un petit peu avec ma maman pour aborder le sujet. Mais comme disait tout à l'heure Céline, c'est ça ?
Oui.
Faut pas rajouter de la peine à la peine. Et j'avais peur, en fait, d'accabler mes parents. Parce qu'à l'époque, donc c'était quand même il y a 15 ans, c'était pas si répandu que ça d'aller voir un psy. Et mine de, moi, j'avais pas le contact, en fait, avec tous les professionnels. Moi, j'avais que mon frère et puis mes parents. Donc, du coup... au niveau des professionnels de santé, j'avais pas ce contact, donc ils pensaient, voilà. Mais c'est vrai que, à 20 ans, j'ai voulu entamer une thérapie. Et notamment, j'aurais bien aimé avoir, en fait, la thérapie y amener ma mère, parce que du coup, j'avais vraiment besoin de ce contact avec ma maman. Avec mon papa, ça a toujours été plus facile de discuter. Mais c'est vrai que ma maman est plus émotive, donc du coup, j'avais besoin d'avoir un médiateur. Et sur le coup, j'ai pas eu le courage de lui dire et d'aller plus loin. Et donc, j'ai attendu que les choses se tassent et qu'on prenne du recul pour pouvoir en discuter.
Cela dit, il est jamais trop tard. Si elle nous entend là, c'est peut-être que ça pourrait vous intéresser.
Plus maintenant. Parce que maintenant, justement, j'ai grandi, j'ai fait ma vie. Et voilà, et en fait, on arrive à avoir ce recul aujourd'hui, elle et moi, pour discuter suffisamment. Je lui dirai jamais tout, parce qu'il n'y a pas tout qui est bon à dire. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème.
D'accord. Une dernière question, et puis après, on écoutera un titre que vous avez choisi avant de discuter avec Lise. Vous êtes donc maman d'une petite fille, bientôt maman à nouveau. Alors, on ne sait pas garçon ou fille, ça vous le gardez secret. c'est magique. Est-ce que vous avez eu à un moment donné aussi cette crainte là, vous avez vécu toute votre enfance avec votre frère malade. Est-ce que c'est une crainte que vous avez eue avant d'avoir un premier enfant?
Alors, justement, pour le premier enfant, j'ai eu peur qu'il soit handicapé, surtout qu'à la première échographie, le gynéco a dit il y a un problème, et donc du coup moi j'étais déjà partie, ok c'est un handicap, bon bah c'est bon, qu'est-ce que c'est comme handicap, on y va.
Combattante tout de suite.
Oui, c'est ça. Au final ma fille est née, tout va bien. Mais maintenant en fait j'ai beaucoup plus de peur pour le deuxième, parce que du coup c'était une grossesse qui était surprise, et en fait j'aurais voulu attendre un petit peu que ma fille soit un petit peu plus grande, parce que justement moi je suis très reconnaissante que mon frère soit né que quand j'avais 5 ans, parce que du coup j'ai pu avoir 5 années avec mes parents. Et donc voilà, donc là c'est un peu la petite crainte que j'ai, c'est que s'il se passe quelque chose, que je puisse pas accorder le temps suffisant à ma fille.
Merci pour la confiance que vous nous accordez, pour tout ce que vous nous dévoilez à l'antenne. C'est toujours très fort. Je vous propose qu'on écoute un titre que vous avez choisi. Vous m'en avez choisi deux et vous m'avez dit, je crois que je vais quand même choisir Louane, je vole. Pourquoi cette chanson? Qu'est-ce qu'elle raconte de vous?
En fait, le film La famille Bélier, ça montre, c'est justement en fait une enfant normale qui vient aider toute sa famille. En fait, je trouve que ça montre bien un petit peu ce que fait une personne, enfin un aidant pour sa famille. Et en fait, on se rend compte que c'est naturel. Et c'est vrai que cette chanson, à la fin, c'est le moment où elle choisit de choisir sa voie. Et c'est vrai que le film a été très marquant pour toute la famille. Donc voilà.
Et on écoute tout de suite Louane avec Je vole sur RCN.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir.
Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père, démuni, a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a gare, une autre gare, et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette guerre qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer. Ça m'empêche de chanter. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vole. Je vole.
RCN, et puis c'est tout, avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Et ce matin en direct, on parle de fratrie et d'épilepsie, la place d'une maladie. On pourrait en fait finalement aborder ce sujet sur d'autres maladies chroniques, mais là en l'occurrence ce sont les épilepsies et la place des épilepsies dans les relations de frères et sœurs. On a écouté le témoignage d'Emeline il y a quelques instants, et Lise est à nos côtés aussi. Donc Lise, je rappelle, tu as 17 ans.
Oui, c'est ça.
Ta sœur s'appelle Pauline.
Oui.
Elle en a 14.
Oui.
Ça veut dire que toi aussi, jusqu'à tes 3 ans, la vie était normale.
Oui, la vie était normale.
Et puis un jour, donc, ta petite sœur arrive.
Oui.
Et à quel moment la maladie s'invite? Et alors, comment ça se passe dans ta vie?
Alors déjà, ma sœur a 2 mois eu un cancer à la tête. Mm-hmm. En fait, mes parents sont allés chez ce qu'ils m'ont raconté quand j'étais petite. Ils sont allés chez un médecin qui leur a dit qu'elle avait une gastro parce qu'elle vomissait beaucoup et tout ça. Et en fait, ils sont allés à l'hôpital à Brabois et ma sœur avait une boule à la tête, une sacrée boule à la tête. Donc, ils ont découvert qu'elle avait un cancer au cerveau. Pendant longtemps, ma sœur était à l'hôpital pendant 1 an et demi. Donc moi, je l'ai assez mal vécu parce que c'était vraiment assez traumatisant pour une fille de 3 ans qui est petite encore. Ça a été assez compliqué parce que fallait que mes parents y aillent à l'hôpital souvent, donc ils n'étaient pas souvent là, donc c'était assez compliqué. Et l'épilepsie, ils l'ont découvert après la chimiothérapie de ma sœur. Donc, quand elle avait 4 ans. Donc, mes parents m'ont expliqué tout ça, parce que mes parents, ils sont assez compréhensifs, ouais. Parce que j'ai un frère qui a des troubles du comportement.
D'accord.
Donc,
qui lui est plus grand, il a 22 ans,
c'est ça ? Oui, il a 22 ans maintenant, mm-hmm. Donc ils sont assez compréhensifs sur tout ça. Et ma sœur, elle est allée dans un IME à Flavigny-sur-Moselle, mm-hmm. Qui était un cossais, donc j'ai eu assez de liberté avec mes parents.
D'accord.
Voilà.
Donc toi, tu as réussi à ne pas perdre complètement ce lien entre tes parents et toi, vous avez réussi à le garder.
Oui.
Cela dit, on peut raconter les coulisses, tes parents sont là, ils ne sont pas dans le studio, ils ont préféré rester à l'extérieur, mais ils t'accompagnent. Oui. Et puis on sent qu'il y a un vrai soutien.
Oui, beaucoup, oui.
Ta petite sœur, donc, vous découvrez l'épilepsie, et alors comme Emeline il y a quelques instants, ça t'a quand même impacté dans la vie.
Oui, beaucoup, oui.
Raconte-nous un petit peu ce que ça a changé dans ta vie d'enfant.
Quand ma sœur faisait des absences, encore là maintenant, avec mon frère, on est plus souvent là que mes parents.
D'accord.
On voit tout de suite quand elle fait une absence, on voit qu'elle clignote des yeux et tout ça, donc on prévient nos parents et on la laisse tranquille pendant 5 minutes. Mais moi, j'ai toujours eu ce sentiment, quand elle fait une absence, qu'elle allait mourir, en fait.
Ah oui.
Voilà, en fait. J'ai toujours peur de ça, en fait. Par exemple, ça lui arrive des fois de tomber dans les escaliers, mmh. quand elle se réveille le matin. Et ça, moi, ça me tourne le ventre, mmh. et tout ça. Et en fait, quand elle revient de l'IME, elle tombe à l'IME. Donc, elle a souvent des bleus. Et moi, j'ai toujours peur qu'il lui arrive quelque chose de grave et qu'on retourne... quand elle avait son cancer, en fait, à l'hôpital, en fait.
Oui, il y a vraiment ce traumatisme, oui. du cancer de ta petite sœur qui revient tout le temps, qui sera tout le temps à toi.
Oui.
Évidemment, qui n'est pas aidé, on l'entend bien, hein, par le trouble d'épilepsie dont elle souffre. Tout à l'heure, je crois que c'est toi qui nous disais, quand on écoutait le micro-trottoir, on entendait des gens qui disaient, il faut à un moment donné, faut soutenir les parents.
Oui.
Quand je t'entends, j'ai l'impression que parfois, effectivement, tu es presque la maman de ta sœur.
Oui, c'est ça, en fait. Mes parents m'ont dit que j'ai beaucoup de projets dans ma vie en ce moment. Je suis dans le médical.
D'accord.
Je vais être auxiliaire de puériculture. Je vais travailler avec les enfants. Parce que depuis ma sœur, ça m'a assez attristée, tout ce qu'elle a vécu. Donc, je veux aider les enfants, en fait. Moi, tout ce qui est enfants et tout ça, j'aime beaucoup. Parce que ma sœur a vécu des choses assez compliquées. Je veux partir au Canada aussi.
Très bien.
Oui, à l'étranger. Mais ma mère, j'aimerais bien amener ma sœur parce que je sais que elle n'aura pas une vie comme moi. Et ma mère m'a dit, parce qu'avec ma maman, on parle beaucoup de tout ça en ce moment. Ma mère m'a dit que j'avais ma vie et que je dois vivre ma vie et qu'elle vivra sa vie différemment que moi. Mais voilà.
Parce que ça m'intéresse. Comment tu reçois ce que te dit ta maman? Parce que c'est quelque part, c'est ce que disait notre Leslie, psychologue. Elle disait, il faut à un moment donné penser aussi un petit peu à toi et à vivre ta vie. Mais si je t'entends, t'as un petit peu du mal encore.
Oui, j'ai beaucoup de mal en ce moment à vivre ma vie avec ma sœur qui est épileptique. Oui.
Et quand ta maman te dit, mais il faut que toi tu partes et tu vis ta vie, elle vivra la sienne. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là?
La tristesse. Parce que j'ai peur qu'il lui arrive plein de choses, donc voilà.
Ça doit être difficile, l'éloignement.
Oui, beaucoup.
Ouais. On sent l'impact très très fort sur les épaules de Lise aussi, de la maladie de sa sœur.
Ouais.
J'entends quand tu nous racontes le métier vers lequel tu t'orientes, on a l'impression que tu as envie de rattraper tout ce que ta sœur n'a pas pu avoir, que tu as envie d'éviter à d'autres.
Ma mère m'a dit que ma sœur n'aurait pas le permis.
Ouais.
Par exemple, qu'elle ne peut pas conduire avec son épilepsie, parce qu'elle peut s'endormir au volant ou des trucs comme ça. Donc, voilà.
Donc, tu as 3 permis de conduire.
Oui. non, mais voilà.
Et c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, Emeline nous avait dit, moi, j'ai développé des qualités, notamment l'empathie.
Oui.
Je fais d'abord passer les autres avant moi. Et quand on en reparlait hors antenne, tu m'as dit, moi, c'est pareil.
Oui, c'est pareil, oui.
Et on l'entend bien dans le métier que tu veux faire.
Oui. Parce que ma sœur a vécu des choses compliquées, donc... j'ai pas envie que les autres enfants ont la même chose que ma sœur, en fait. Qui ont une vie comme moi, en fait.
Tu penses que tu peux t'imaginer à un moment donné de vivre pour toi?
Je sais pas.
Tu sais pas.
Franchement, je sais pas. Vu que mon frère a des troubles du comportement et ma sœur qui a une épilepsie, c'est assez compliqué.
C'est difficile pour toi.
Oui, beaucoup.
Tu en parles beaucoup à ta maman, oui, tu le disais, souvent. Et avec ta maman d'ailleurs, oui. Pacua. Tu as déjà rencontré des professionnels aussi pour
En ce moment, je suis suivie par une psy parce que je suis en dépression. Mm-hmm. Pas par rapport à ma sœur, mais par rapport à autre chose. Et aussi un peu mon frère aussi.
Ça joue peut-être un petit peu.
Mm. Oui, voilà. Et ma sœur aussi. Parce que j'ai beaucoup de tristesse en moi. Parce que j'en ai pas voulu à mes parents, par exemple, ce qu'elle a eu. Mais j'en ai voulu, comme disait Emeline. Par rapport au cadeau. Et en ce moment, c'est encore le...
C'est le cas.
C'est le cas. Mon père a offert une Barbie il y a 2 semaines à ma sœur et j'ai été jalouse. Mmh. Mais mon père m'a dit que, en fait, elle est malade. Donc, voilà. Il y a, comme Emeline disait, il y a que ça qui peut la rendre heureuse.
Ça illustre très bien quelque chose qu'on disait en début d'émission, oui. L'importance d'avoir des moments aussi entre vous, entre frères et sœurs de personnes souffrant de troubles. Ça peut être intéressant de discuter, oui. De vous rendre compte que vous n'êtes pas seul à vivre ces choses-là, non. Et que ce n'est pas vous le problème.
Non.
C'est qu'il y a une situation et que vous la vivez en fait, et c'est comme ça, quoi.
Oui. J'ai beaucoup de moments avec ma sœur. Des fois, on peut. Je lui lis une histoire, par exemple, ouais. Avant de dormir. On joue ensemble, on regarde la télé ensemble. Hier, elle a regardé la télé avec moi. On se faisait des câlins. Ça, c'est rare parce que ma sœur n'est pas très tactile.
D'accord.
Voilà, par rapport à son épilepsie, parce qu'on l'a beaucoup touchée à la tête et tout ça. Donc, ma sœur, tout ce qui est tactile, surtout mes parents aussi, elle n'aime pas les câlins, en fait. Et les bisous. Ça, elle déteste. Mmh. Voilà. Surtout quand elle est en absence.
Et toi, t'aimes bien les câlins et les bisous.
Ah, j'adore. Oui. Oui. Je suis plutôt une fille assez câline avec ma maman, surtout.
Je l'ai vu un petit peu avec ton papa aussi.
Oui, aussi.
Alors, je suis très, très frustré parce que l'émission va se terminer dans quelques secondes. Et j'aurais adoré poursuivre nos échanges. On a appris des tas de choses. Et je trouve... D'abord, merci à vous deux, toutes les deux. Lise, Emeline, pour vos témoignages qui sont très importants, je trouve, très forts. Puis, c'est pas facile de se livrer encore plus à la radio, non. Et vous l'avez fait. Et merci pour la confiance que vous nous avez fait. Leslie, si on devait conclure en un mot suite au témoignage qu'on vient d'entendre.
Vivez votre vie.
Et une chose qu'on
et profitez.
Dit, une chose qu'on a dit hors antenne, hein, Emeline, vous avez écrit à un moment donné quand ça allait pas bien et on disait écrire la liste de tout ce qu'on a envie de faire plus tard, ça peut être une bonne solution.
Pareil
pour Lise, faites cette liste et puis gardez-la.
La liste de vos envies.
La liste de vos envies et vous les gardez, vous les affichez et vous les gardez bien près de vous. Merci mille fois à toutes les deux pour votre confiance. Merci Leslie.
Merci.
Je rappelle que vous êtes aussi psychologue à la MAS de Dommartin-les-Toul. Merci Céline, merci Aurore. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur quelle thématique.
Dans un mois, normalement, pas normalement, c'est validé.
Dans
un mois. Épilepsie pharmaco-résistante.
Très très bien.
Quelle solution quand les médicaments ne suffisent plus. Et j'ajouterai juste un tout petit dernier petit mot. J'invite les parents à considérer la place aussi de l'enfant aidant, l'impact que ça peut représenter
tout
et de ne pas hésiter, et ce n'est pas une faiblesse du tout, au contraire, de ne pas hésiter à guider l'enfant vers ce qu'il veut faire et puis vers des groupes.
Ouais.
Voilà.
Les groupes, je crois que c'est quelque chose de très important. On vous mettra plein de liens et de ressources sur la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver cette émission. Merci mille fois pour cette émission. Je vous souhaite à tous une belle journée
merci
et à très vite pour un prochain numéro d'Épices
et tout. Merci Thomas.